Entretien avec notre évêque.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour Valérie, quelle joie de me retrouver à l'antenne comme chaque semaine. Et comme je sais qu'ils sont nombreux, nos amis auditrices et auditeurs, eh bien je les salue avec beaucoup de cordialité.
Monseigneur, l'actualité du diocèse est sous le signe du renouveau cette semaine. En effet, nous allons débuter ce dimanche une nouvelle année liturgique. Nous quittons une C pour retrouver une A. Oui. Et ce sera également le premier dimanche de l'Avent. Comment se préparer à cet avènement que fête Noël ?
Alors d'abord, c'est bon, peut-être dire ce qu'est le thème de l'Avent, parce que c'est quand même le temps de l'Avent est un temps particulier. On peut rappeler déjà que Adventus, que l'on traduit habituellement par avènement, c'est pas un mot chrétien. C'est un mot chrétien, mais d'origine profane. À l'origine, donc, c'est un terme grec, hein, parousia. On a traduit par parousie. La parousie désignait une visite d'un personnage important dans l'Empire romain, par exemple, lorsque l'empereur qui était assimilé à un dieu, hein, arrivait quelque part, on parlait de parousie, on parlait d'avènement. On a retrouvé sur certaines monnaies romaines, à Corinthe par exemple, l'expression Adventus Neroni, la venue de Néron. Et donc c'est peu à peu que le mot a été repris par les auteurs chrétiens, les premiers écrits chrétiens vont employer ce mot, alors autant en grec qu'en latin, mais là, cette fois-ci, non pas pour parler d'un personnage important de l'Empire, mais pour désigner Dieu lui-même qui vient à notre rencontre, donc dans un premier avènement qui est bien sûr l'incarnation, c'est-à-dire l'avènement dans la chair, qui inaugure les temps messianiques, et puis un deuxième avènement qui sera le dernier, qu'on appelle justement celui-là la parousie, c'est-à-dire ce retour du Christ glorieux à la fin des temps qui va couronner toute l'œuvre du salut. Et donc c'est bien ce double avènement que valorise le temps liturgique de l'Avent. Vous savez que pour le temps de l'Avent, il n'y a que deux préfaces à la messe, hein, des quatre semaines de l'Avent. La première insiste sur le premier avènement, puisque nous rendons grâce que le Seigneur soit déjà venu en prenant la condition des hommes. C'est ce qu'on dit dans la préface. Et puis, il y a une seconde préface, vous savez, qu'on prend à partir du 17 décembre, donc là, au moment où on entre dans l'octave préparatoire, dans la semaine préparatoire à Noël. Cette préface annonce que le Christ reviendra de nouveau revêtu de sa gloire. Et là, bien sûr, on fait allusion au dernier avènement final, eschatologique, quoi, la fin des temps. Alors, le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation et donc on prépare nos cœurs à la venue de Jésus. Et donc, pour cela, eh bien, il y a une dimension peut-être un peu pénitentielle. On revêt les ornements violets. C'est un reste un peu de la ligne pénitentielle ascétique, mais en revanche, on ne marque pas autant l'accent que dans le temps du carême. Donc on ne demande pas aux chrétiens de jeûner pendant le temps de l'Avent. On peut toujours bien sûr jeûner à titre personnel, voilà, on peut le faire de même manière. Mais l'Avent reste une attente joyeuse. Et on chante Alléluia pendant le temps de l'Avent, alors qu'on ne le chante pas pendant le temps de carême. Alors si le Gloria, par contre, est omis, si on omet le Gloria, c'est pour qu'il puisse retentir avec d'autant plus d'éclat, oui, le soir de Noël, quand on chante avec les anges Gloria. Et voilà, je ne vais pas le chanter à l'antenne, hein, parce que bon. Alors voilà, donc on peut déjà dire ceci. Alors bien sûr, on connaît, hein, finalement les points d'accent du temps de l'Avent que sont d'abord l'attente. L'attente est ce qui caractérise le temps de l'Avent. Alors, moi, j'aime beaucoup, dans le verbe attendre, il y a le mot tendre, avec son élan, avec son mouvement, on pourrait dire son dynamisme. Le temps de l'Avent ne consiste pas à attendre de façon passive le jour de Noël, mais on se mobilise vraiment dans toutes ces dimensions de notre être humain, pour aller à la rencontre de celui qui vient. Donc, en sachant d'ailleurs que à notre attente de Dieu répond l'attente de Dieu lui-même sur nous. Dieu nous attend, le Sauveur nous attend. Dans la règle de saint Benoît d'ailleurs, il est écrit « Le Seigneur nous attend chaque jour ». Et c'est très beau parce qu'il y a derrière cette belle expression peut-être un appel à vaincre la paresse. Si vraiment le Seigneur m'attend chaque jour, et on peut dire il m'attend à chaque instant, eh bien il faut que j'habite le temps de beaucoup de, voilà, d'occasions d'aimer, de servir. Et puis bien sûr, c'est la dimension de la vigilance. Alors, dès le premier dimanche de l'Avent, Jésus nous le dit, hein, veillez, tenez-vous prêts, etc. Et puis saint Paul va, dans ce premier dimanche de l'Avent, nous le dire aussi, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Voilà, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Donc c'est un appel à ne pas se laisser aller à la facilité, à vivre un peu comme des païens, mais vraiment à nous mettre en situation de guetter la venue du Seigneur. Et puis, qui dit attente, dit désir. Alors, on aime bien ça, hein, moi j'aime beaucoup, on dit de l'Avent qu'il est le temps du long désir. Et c'est très beau. Le fait d'attendre, ça creuse le désir. Vous savez, on perd aujourd'hui, je pense, hein, ce sens de l'attente. On n'aime pas attendre aujourd'hui, on veut tout de suite. Et le fait, et c'est pour ça qu'on est blasé, parce qu'une fois qu'on a eu, ben on n'est pas satisfait. Alors on recherche encore à nouveau à être donc à rassasier. Mais voilà, l'attente, elle creuse le désir. Et le désir, il s'exprime en particulier, bien sûr, par la prière. Saint Augustin nous le dit, ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est continuel, alors ta prière, elle va t'habiter pendant tout le temps de ta journée. Voilà. Et puis, la patience, je pense que c'est aussi une caractéristique de l'attente, hein, la patience. C'est aussi le signe d'une maturité, d'une certaine maîtrise de soi. Voilà, on ne se précipite pas tout de suite sur un bien, sur qu'on désire. Non, on met tout son talent, voilà, à le désirer, à le faire attendre. Alors voilà donc en quoi peut-être nous parle le temps de l'Avent, ce beau temps dans lequel nous entrons dimanche.
Merci, Monseigneur, que nous sachions rentrer dans ce temps, dans ce beau temps du long désir, en cet avant 2022. Et du nouveau également, il y en a au séminaire Saint-Jean de Nantes, où sont formés les futurs prêtres du diocèse de Laval. Oui. Samedi, celui-ci sera inauguré à l'issue d'une vague de travaux. Une restructuration de l'espace a été effectuée pour permettre aux séminaristes de vivre en petite communauté. Quelle est la visée pédagogique de ce nouveau fonctionnement ?
Ben, elle est très déterminante. Hein. Donc, alors, j'ai eu déjà l'occasion d'évoquer à l'antenne, il y a plusieurs mois déjà, ce projet. Donc, un chantier quand même assez important qui a consisté à réinvestir l'intérieur du séminaire pour l'organiser en petite fraternité de séminaristes. Pourquoi ? Eh bien, bien sûr, l'objectif, c'est de préparer des futurs prêtres à vivre, pas forcément sous le même toit, mais en tout cas, à penser l'exercice de leur ministère d'une manière un peu nouvelle, en intégrant cette dimension de fraternité sacerdotale qui est une aide absolument précieuse pour la mission, dans la mesure où elle permet à plusieurs prêtres de vivre ensemble une émulation à la fois spirituelle, intellectuelle et pastorale. Je crois qu'aujourd'hui, moins on a de prêtres, je l'ai souvent dit, moins on a de prêtres, parce que bien sûr on fait le constat qu'ils sont de moins en moins nombreux, plus on doit les aider à vivre ensemble, à se retrouver ensemble, parce que la solitude n'est jamais bonne et pour personne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais c'est vrai de tout un chacun, et à commencer par les prêtres. Et donc, on voit que déjà depuis longtemps, voilà, l'Église insiste sur cette dimension de fraternité. Déjà, le Concile Vatican II hein, a encouragé la vie commune des prêtres pour favoriser l'action apostolique et puis aussi offrir aux fidèles un bel exemple de communion, hein, d'unité. Quand les chrétiens voient que des prêtres s'estiment et qu'ils prennent les moyens de vivre ensemble, c'est très encourageant et c'est un signe pour eux. Et je dirais, c'est un signe appelant. Donc samedi, nous vivons cette inauguration officielle au séminaire Saint-Jean de ces travaux, enfin terminé après deux bonnes années hein, de bruit. Bon, ben ça c'est toujours comme, enfin c'est souvent comme ça, mais voilà, c'est fait maintenant et les jeunes sont très heureux de pouvoir tenter cette expérience de vie ensemble.
Vous parlez de signes appelants, vous me donnez la transition idéale, parce que samedi dernier, lors d'une messe à la maison diocésaine, vous avez béni des box pour les vocations.
Des box, ça veut dire des boîtes, hein, des boîtes. Voilà, parce que des box vocations, la mode des box.
Ouais, qui ont été réalisés par le service diocésain des vocations,
oui.
Et qui sont proposés aux paroisses de la Mayenne qui le souhaitent. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs l'objectif de ce projet?
Mais l'objectif, c'est bien sûr de rendre plus présente la prière pour les vocations, qui est une demande expresse de Jésus dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » C'est déjà, vous voyez, un indicateur intéressant de savoir que dès les origines du christianisme, la pénurie des ouvriers, elle était déjà soulignée par Jésus. Alors, c'est important de prier parce que face au constat que, comme je le disais, que les prêtres sont de moins en moins nombreux, ils le seront certainement plus dans l'avenir, mais en tout cas, il peut y avoir des réactions diverses. Il peut y avoir des réactions de peur, d'inquiétude pour l'avenir, de découragement. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans une attitude beaucoup plus positive en nous responsabilisant dans cette mission d'appeler aux vocations? Nous sommes tous appelés à une vocation. Et j'aime bien Mgr Billet, hein, il disait « appeler, c'est servir une liberté ». Appeler, c'est pas contraindre, c'est pas mettre en péril l'exercice de la liberté. Au contraire, c'est lui permettre de s'épanouir. Voilà. Alors, du coup, chaque dimanche, on va intégrer, au moins une fois par mois, hein, une intention de prière très explicite à la messe dominicale, puisque c'est le lieu où se rassemblent le plus de chrétiens, pour honorer cette demande de Jésus. Voilà, tout le sens de cette box vocation, cette boîte qu'on a remplie de choses, de chapelets, d'une statue de la Vierge, etc. Et puis une grande bougie, etc. C'est pour qu'elle circule de famille en famille et que les familles prennent à cœur ce souci d'appeler aux vocations dans l'Église.
Bien sûr, puisque nous sommes tous concernés. Monseigneur, merci infiniment. Donc, en route pour le renouveau, je vous salue ainsi que tous nos auditeurs. À la semaine prochaine.
À bientôt et beau temps de l'Avent. Au revoir.